Sylviane et Timothée, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Pour vous présenter rapidement, Timothée, tu es salarié de la radio CELAB, technicien.
Tout à fait.
Et toi, Sylviane, tu es bénévole à la radio depuis de nombreuses années.
2016.
Ouais.
C'est une voix qui commence à être un petit peu connue dans le cadre des documentaires sonores. Ouais.
Et donc, cette année, tous les deux, vous êtes allés aux Vieilles Charrues. Expliquez-moi. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Quels artistes vous avez rencontrés?
Alors, on a rencontré deux artistes, hein, Tanguy Le Crince et Quinquis. Hein. Tanguy, lui, c'est le biniou et Quinquis, c'est la voix. Et tous les deux très portés par la culture bretonne. Et dans le même temps de ces rencontres-là, il y a un mouvement, une pétition que j'ai pu signer, que vous avez peut-être vue, autour de la réduction des moyens financiers de la culture, et plus précisément, s'agissant de la radio, la mise en onde des infos en langue bretonne. Et quand j'ai vu sur l'affiche ces deux noms-là, je me suis dit, voilà, il y a un intérêt pour moi à partager ça avec les auditrices et les auditeurs, et avec vous, la radio. Donc vous nous avez invités à en faire quelque chose. Et là, je connais Timothy depuis qu'il est arrivé ici, et je connais son goût pour la culture bretonne. Je crois que c'était même un danseur. Oui, et puis pour la musique. Donc j'ai proposé à Timothée.
Oui, effectivement, quand tu m'as proposé, Sylviane, de t'accompagner comme ça pour faire des interviews d'artistes aux Vieilles Charrues et puis de deux artistes bretons, je me suis dit que c'était du fait aussi, effectivement, de danser depuis à peu près un an maintenant, faire de la danse bretonne, ça m'a tout de suite fait un petit clac des petites étincelles dans les yeux. Et puis, je me suis dit qu'en plus, c'était assez pertinent du fait que Émilie Quinquis, on l'a intégré récemment dans notre playlist musicale. Donc, ça me paraissait tout indiqué et ça m'a enchanté de faire ce début d'été avec toi aux Vieilles Charrues pour ces deux interviews.
Et j'étais contente que tu acceptes ma proposition. Donc on va entendre Tanguy Le Crince en premier, dans une première version. Et demain, donc
Quinquis,
on entendra Émilie Quinquis. On a procédé un peu pareil, un interview, un peu de rencontre aussi des festivaliers et des bénévoles. Il faut savoir qu'ils sont quand même, les bénévoles sont quand même 7000 sur les 3 jours, qui s'occupent de nous, de tout. Il y a des salariés aussi, il y a 3000 personnes par jour salariées sur le site, et à peu près
60 000 personnes,
ouais.
Festivalières et festivaliers.
Voilà, on est quand même un petit paquet là, à nourrir, à écouter de la musique, à faire la fête, à boire des coups et à découvrir des nouvelles choses, parce que vraiment c'est une scène, les Vieilles Charrues aussi, il y a des artistes émergents, il n'y a pas que des artistes très connus. Donc c'est un melting pot passionnant. J'espère qu'on va vous passionner avec ça sur notre mise en onde ensemble.
J'en suis sûre. Du coup, on commence avec Kraz ce soir, c'est ça. Et puis pour ceux qui nous écoutent demain, c'est l'heure d'écouter Quinquis, Émilie Quinquis.
Voilà. Merci beaucoup de nous recevoir à la radio. Merci à tous de votre écoute.
Merci, oui, effectivement.
Et bonne écoute.
Bonne écoute.
Bonjour, Tanguy Le Crince. Alors, dites-moi là, c'est Le Crince ou Le Crin?
Non, c'est Le Crince.
Le Crince et...
Mais d'où mon nom de scène sur lequel j'ai changé l'orthographe pour qu'on le prononce enfin bien.
Bah oui, c'est ça.
J'ai mis un Z derrière eux. Et au final, les gens disent Craze.
Donc, on démarre sur le projet Crince. Vous êtes là, vous êtes breton. Je vais faire juste une petite biographie où vous allez faire directement. Mais 1982,
c'est
votre naissance.
C'est
voilà.
Ça.
Vous êtes dans une, vous vivez dans une famille du côté de Rostronin,
tout à fait,
exploitant agricole. Et puis, racontez-nous, parce que on expliquera qu'on vous a vu hier soir, on a interviewé le public. Mais juste là, le passage de votre formation et quelque chose était tout tracé, exploitant agricole, et non, ça colle pas.
Ouais. J'ai fait un bac agricole que j'ai loupé, et quand je l'ai repassé, bien m'a pris de le louper, puisque en refaisant ma deuxième année de terminale, je me suis rendu compte que non, c'est pas ce que j'avais envie, et puis qu'entre temps j'avais surtout rencontré à travers les Vieilles Charrues et à travers le festival Ficelle à Rostronin, j'avais rencontré un peu le spectacle et je m'étais rendu compte que ça pouvait être un métier, et je me suis passionné pour ça, et j'ai réussi à bifurquer après mon bac agricole. J'ai dit, je veux pas être paysan, je veux pas de cette vie-là. Et j'ai bifurqué sur le culturel en territoire rural petit à petit, jusqu'à faire un master de management spectacle vivant. Et puis après, une carrière maintenant d'une vingtaine d'années dans le spectacle, à plusieurs postes très différents, dans plusieurs registres très différents, de la régie à la communication, à la musique, à la programmation. Voilà, c'est un parcours un peu particulier, mais j'ai bifurqué.
sur juste ces tout débuts-là, je me posais une question. Est-ce que vous avez des parents bretons, bretonnants? La langue était quoi dans la famille?
Moi, je suis le seul qui ne parle pas breton. D'accord. Je suis un peu la génération
vous
sacrifiée.
Avez des frères et soeurs,
j'ai un jeune frère et une jeune sœur, et eux, ils ont appris le breton à l'école ou en fin d'adolescence. Mes parents, ils ont le breton parce qu'ils l'ont eu malgré eux, cette génération où les parents parlaient breton à la maison, mais on interdisait de parler le breton à l'école. Et donc moi, c'est un peu une souffrance chez moi. Je suis le seul de la famille à pas avoir la langue. Alors voilà, j'ai autre chose, hein, j'ai la musique et d'autres. Voilà, mais j'ai pas la langue pour le coup.
D'accord. Et donc, pareil encore sur ces années adolescentes et jeunes adultes, etc., autour de l'instrument, est-ce que vous avez joué de la bombarde? Est-ce que c'est tout de suite du biniou? J'ai vu des images de vous avec votre père.
Ouais.
On va parler de ce film, ce film, magnifique film d'ailleurs.
Merci. En fait, moi, j'étais une famille de musiciens. En fait, mon père était sonneur, donc la bombarde, le biniou, j'ai fait de la clarinette, de la flûte traversière, mais j'avais commencé par le synthétiseur même quand j'étais gamin. Et puis, je sais pas, il y a un moment, le biniou, quand t'as 16-17 ans, c'est pas forcément le truc le plus glamour de la Terre. Tu préfères faire de la guitare, et puis, c'est plus sexy. Et je l'ai un peu remisé à un moment donné, quoi. À l'entrée dans la vingtaine, j'ai arrêté de jouer. Je l'assumais plus. Et puis, ce qu'on met sous le tapis finit toujours par ressortir à un moment donné. Donc voilà, ça ressort maintenant.
On va essayer de soulever le tapis parce que je trouve que c'est magnifique. Vous avez travaillé avec Erwan Karavec, qui, lui, quand j'ai lu un petit peu pour préparer cette interview, il avait une idée sur la cornemuse qui était déplacée, un instrument déporté. Et je trouve qu'effectivement, on a des idées de la cornemuse avec un écossais. Et nous, en Bretagne, peut-être même en France, l'idée du biniou avec la culture très attachée à une imagerie forte de breton, chapon, voilà. Comment cette ambiguïté-là, comment vous êtes arrivé à la dépasser? Parce que je vous ai entendu hier, et vraiment c'est magnifique, on va expliquer.
Merci. Moi déjà, c'est un objectif que les cultures, ces cultures-là, ces instrumentariums-là, qui restent vivants en fait. Moi c'est un truc, et j'ai fait la même chose dans mon passé de manager-tourneur. J'ai produit Chrisman et LM. Pareil, c'était le chant breton, mais déporté à un endroit du rap. Je travaillais avec Super Parquet en Auvergne, qui déporte leurs usages de la musique traditionnelle vers la musique psychédélique, de trance. Et moi, ça m'intéresse toujours de réintégrer ces instrumentariums-là, notre culture, dans le réel, dans le aujourd'hui. Donc ça, c'était pour moi une évidence. Et quand j'ai voulu reprendre l'instrument-là, effectivement, je me suis dit, j'aime bien la musique traditionnelle, j'aime bien la gavotte, les ficelles et tout le reste, mais j'avais pas envie de faire ça. J'ai une culture musicale plus vaste aujourd'hui à l'âge qu'est le mien et avec le parcours que j'ai eu, et je voyais quelque chose à l'endroit des musiques électroniques similaire à cet instrument qui a un souffle continu, cette poche, le son qui ne s'arrête jamais, la musique assez minimale quelque part. Et j'ai été chercher Erwan, je lui ai demandé d'être un peu mon maître pendant un temps, et puis de m'accompagner grâce à une bourse de compagnonnage. Et puis il m'a mis le pied à trier, il m'a fait aller en tournée sur un spectacle, et puis de cette musique qu'on jouait dans le spectacle, moi en la travaillant chez moi, j'en ai vu autre chose, et je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser. Donc je l'ai repris, j'ai réarrangé, hybridé l'instrument, réécrit une partie conclusive à cette écriture là et pareil, j'ai cette même volonté que lui de déporter l'usage. Alors lui, il le déporte à l'endroit peut-être d'une musique contemporaine, d'un réseau des musiques contemporaines. Moi, ce qui m'intéressait, je viens de là aussi, c'est le réseau des musiques amplifiées. Donc d'où aussi tout ce travail de traitement sonore qu'on met en œuvre avec Thomas Quéré, l'ingénieur du son qui travaille sur mon projet et que vous avez pu entendre hier. C'était pas un biniou seul, c'est le biniou, tous les sons viennent du biniou, mais on va chercher un peu la limite sur ces sons-là. On va chercher des octaveurs sur le bourdon, chercher des harmonisations sur le chanteur, et on vient comme ça essayer de casser complètement les codes. Et aussi casser ce code, c'est un instrument d'accompagnement normalement, le biniou, il y a toujours une bombarde avec, et de le ramener à un endroit de soliste en fait, ça c'était aussi tout l'enjeu. Je crois que je suis amoureux de mon instrument, mais que la société me le rend pas toujours bien, et que j'avais envie de leur montrer que ça pouvait être chouette, le biniou, et que ça peut amener à un endroit notamment de transe qu'on n'imagine pas,
Vous avez deux micros.
J'ai que deux micros, J'ai que deux micros, donc tous les sons qu'on entend viennent de l'instrument, Il n'y a pas de bande, il n'y a pas de sample ou d'autres instruments ajoutés. Il y a deux micros, et donc je voulais être très libre dans mon jeu, donc j'ai plutôt que d'avoir des pédales d'effet avec moi, je définis une conduite avec, avec le sondier Thomas qui m'accompagne. Et lui, il vient, en fonction de ce qu'on s'est défini, me coller un petit peu à la culotte pour venir ramener toute cette matière, toute cette texture. Par contre, j'ai pas de filet, quoi. Si moi j'arrête de jouer, il n'y a plus rien. Tout s'effondre, toute la musique s'effondre, quoi. Donc c'est aussi un petit peu l'enjeu, quoi. Et je trouve que du coup, ben, voilà, on crée une progression, comme ça on part de l'instrument complètement cru pour arriver à un endroit où il est complètement hybridé, quoi, et où je pense qu'on sait plus très bien qu'est-ce qu'il joue, qu'est-ce qu'il quoi. Et on vient créer avec des effets très simples, en fait. C'est vraiment qu'on vient détourner, quoi. C'est les octaveurs, tous les musiciens connaissent ça, un octaveur, un délai, une reverb un peu poussée, un harmonizer, des effets tout simples, une dizaine d'effets comme ça qu'on utilise dans une narration, une conduite, pour appuyer le propos et puis appuyer surtout moi l'intention et l'émotion que je cherche dans cette pièce là et dans ce rapport public là, quoi.
Le rapport au public, vous êtes là, c'était hier soir, c'était quand je vous ai vu à l'Antipode aussi, c'était vous étiez au centre, ouais. Vous avez une scène, ouais. Il y a une circularité, ça c'est une première chose autour de ça. Et il y a aussi, oui, le vêtement,
la jupe,
ouais. L'apparence, ouais. La jupe, voilà, sur ces choses-là.
En fait, j'ai voulu recommencer à la fin de ce film dont on parlait tout à l'heure. Je joue avec mon père à la fin du film. Je ne veux pas être paysan et j'avais pas joué depuis le début des années 2000 quand j'avais arrêté la musique à 20 ans. Et pour ce film, pour trouver notre endroit de convergence avec mon père, je me suis rappelé qu'on faisait de la musique ensemble plus jeune, donc on a fait cette pièce. Et à la fin, quand le film a tourné, moi j'ai tourné beaucoup avec le film, je me suis rendu compte que la prise de parole que je venais de prendre avec le film, c'était super. Moi qui avais toujours été au service des autres et du propos des autres, que ça m'avait quand même fait du bien, j'avais des choses à raconter. Et je me suis rendu compte que j'avais un truc à raconter avec la musique aussi. Voilà. Et c'était quoi la question ?
La question, c'est sur la circularité, la scène, voilà. Au milieu du public.
Et la circularité, et voilà. Et la robe, et il y a un truc que je savais, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai décidé à la fin de ce film que j'allais reprendre la musique, je savais que j'allais jouer en jupe. Faut pas me demander trop pourquoi. Il y avait une forme d'évidence, il y avait quelque chose peut-être un peu androgyne, mais il y avait quelque chose aussi du personnage, sortir de Tanguil Kras, régisseur, Tanguil Kras manager, de me mettre à un endroit artistique autre. Et la circularité, elle s'est imposée. Quand j'ai commencé à travailler cette musique chez moi, la musique d'Erwan, puis les ajouts que j'y faisais, il y a eu très naturellement quelque chose qui s'est concentré chez moi, qui s'est joué dans le corps. J'ai commencé dans mon salon à tourner sur moi-même. Et en une soirée comme ça, j'ai fait un croquis de ce que je voulais, jouer au milieu du public tout le temps. D'habitude, il n'y a pas de scène, je joue vraiment à plat. Ici, c'était pas possible parce que le chant est trop chaotique et c'était trop dangereux pour mes chevilles. Mais je joue tout le temps au plat aussi parce que je voulais casser un peu ce rapport scénique frontal auquel on est toujours habitué. Et j'adore ça, hein. Je vois des dizaines et des dizaines de concerts par an, mais j'avais vraiment envie de péter ça. J'avais envie, je me suis aussi dit que dans la première tournée que j'ai fait avec Erwan, le biniou était très clivant, le suraigu du biniou. Et je me suis dit que si je voulais intéresser les gens et arriver à les choper, il fallait que j'aille au contact et que je ne pouvais pas être à 4 mètres 2 sur un plateau, qu'il y aurait ce mur-là qui se créerait et que l'instrument en créait déjà un naturellement et que j'étais obligé d'aller un peu au turbin et d'aller mouiller un peu, mais c'est vraiment pas simple, je vous avoue, pour un premier projet. Et voilà, cette circularité, elle s'est imposée, cette jupe aussi, et d'un coup il s'est passé quelque chose, et j'ai travaillé sur le corps, sur la rotation. Je me prends pas pour un derviche, j'en ai absolument pas le niveau, mais
vous verrez dans le commentaire de
j'ai vu ça,
ce mot-là est arrivé,
derviche yoga, c'était rigolo.
Mais c'est arrivé avec une dimension très positive.
Oui, oui. Et moi, il y a quelque chose d'un peu philosophique aussi derrière tout ça. J'étais dans une période assez spinoziste quand j'ai fait ça. Il y a la question de l'infini, du tout. Bref, voilà. Je pense qu'un jour, il y aura peut-être une suite à ce solo. Et je pense qu'un jour, je ferai le pas de monter au plateau. Mais pour l'instant, je suis bien là. Et ça oblige à quelque chose d'assez fort. Et puis, ça crée une relation... Moi qui cherche la transe et l'hypnose dans le public comme chez moi, d'être au centre, ça fait tout. Et en plus du travail sonore qu'on fait avec Thomas, le fait de tourner sur moi-même, ça crée une sorte d'effet Doppler naturel, quoi. Le son naturel, l'instrument est assez fort, hein, sans être repris, il fait déjà 85 dB. Et de tourner sur moi-même, en plus du traitement sonore, ça vient créer une sorte de cabine Leslie là au milieu du public. Et je pense que ça appuie encore plus ce rapport assez intime de la musique aux gens, quoi. Voilà.
Quand vous construisez ce spectacle, j'ai posé la question, mais je vais la relire, mais c'est est-ce que lors des titres, on se demandait si c'est titre, si c'est séquence, parce qu'il y a quelque chose qui est archi fluide.
En fait, c'est une grande pièce. Alors, il y a trois parties. Même si c'est qu'une pièce, moi, je les vois comme des chapitres. En fait, tu sais quoi ? Je les vois comme un film. Voilà. Et depuis que je suis passé par l'expérience d'écriture filmique, qui m'a beaucoup servi aussi ailleurs dans la vie, je conçois les choses comme une narration, une dramaturgie. Et cette musique-là, je l'ai conçue comme ça. Donc, il y avait la partie d'Erwan. Donc, il y a les deux premières parties, c'est Erwan. Et je voulais... Pour moi, il manquait dans l'histoire que je voulais raconter, il manquait une phase conclusive, une résolution, comme on dit dans le cinéma. Et voilà, donc pour moi, il y a trois parties, on ne les sent pas forcément, mais il y a quand même une forme de chapitrage qui me permet moi aussi de changer mes états. Je sais que l'émotion qui me gouverne dans la 1, dans la 2, dans la 3 ne sont pas les mêmes. Et elles vont de le chapitrer comme ça, ça me permet d'aller chercher chez moi et de réveiller... l'émotion qui va me permettre de transmettre ce que j'ai envie de donner à ce moment-là, quoi.
Ouais. C'est très, à mon avis, c'est on a vu le spectacle hier soir, c'était vraiment ça. C'était à travers toi, ton propre jeu. Non, c'est pas grave ça, c'est la vie. tes doigts, tes mains, tes pieds, ton visage. C'est pas, quand je dis on sait pas les séquences, parce que c'est fluide en même temps. Voilà, c'est...
Ouais, ouais. Je trouve que ça n'allait pas encore assez, mais merci. Mais les cordonniers les plus mal chaussés. Moi, je fais beaucoup d'accompagnement artistique à la scène de groupe, du regard extérieur. Et forcément, j'en ai pas pris pour moi. C'est super. Hein, ça fait 1 an et demi que je tourne. J'ai fait une grosse trentaine de dates, de très belles dates partout en France, moitié hors Bretagne en plus, ce qui est assez fou d'aller amener le bignou à Marseille, à Poitiers, tout ça. Mais bref, au bout de cette année et demie là, je suis ravi et à la fois j'ai des frustrations. Et je compte faire une reprise à l'automne. Là, je vais faire un petit break là, de quelques mois. Pour faire une reprise, j'ai envie d'aller pousser, de travailler mieux le corps encore, que ce soit encore plus fluide ou encore plus clair et encore plus chargé peut-être aussi à la fois. Et puis pour revenir sur une seconde tournée de ce solo-là en 2026.
Il est justement, je voulais en parler, il y a des dates déjà d'évoquer pour 2026.
Ouais, là c'était ma dernière et ça me va bien. Et de finir sur les charrues avec lesquelles moi j'ai une histoire intime assez forte, c'est pas rien, je vous avoue. Je suis très heureux de finir là, je suis très heureux de comme ça s'est passé hier. Il y aura peut-être quelques dates quand même à l'automne, là il y a des petites choses, histoire de pas perdre la main, mais ouais, on est en train avec l'équipe qui travaille avec moi, mon tourneur, de travailler une belle tournée de 2026, je peux pas trop en dire plus pour l'instant, mais ouais, on devrait retourner dès le début d'année, puis je vais sortir des titres aussi et des clips, parce que je vais pouvoir du coup clipper ma propre musique, et ça me fait bien plaisir.
On l'a pas évoqué, mais tu as fait des clips de plusieurs magnifiques.
Ouais, bah oui. Je suis un peu réel aussi. En gros, quand j'ai écrit Je ne veux pas être paysan avec Anne Basqueta, je savais, on verra bien, mais pour moi, il y avait trois films. C'était un triptyque. Et il y avait le déterminisme social à travers cette histoire de fils de paysan. Il y avait le déterminisme territorial à travers cette vie en centre-Bretagne, ce territoire très particulier. Et puis, il y avait le déterminisme culturel et fils de sonneur, etc. Et je suis ému en te le disant. Et là, je suis en train d'essayer d'écrire ce volet-là. J'essaie de profiter d'avoir ce bignou dans les mains en ce moment. Parce que je me prends plein de choses bonnes, mais moins bonnes aussi dans la figure, avec le public, les gens, les réticences. Et ça m'intrigue vachement. Pourquoi ils ont été folklorisés? Pourquoi ils ont été cassés comme ça, ces instrumentariums-là? Donc là, je suis en train d'essayer d'écrire le volet 2. Donc après, Je ne veux pas être paysan, un film qui s'appelle provisoirement Bignou, tout simplement, aujourd'hui. Et qui, sous la même forme que le premier, à travers une parole à la première personne et mon histoire intime, va essayer de venir un peu interroger ce milieu-là, quoi. Voilà. Je lâche pas, j'ai encore des trucs à raconter.
J'adore ta passion, ton déterminisme. Merci beaucoup, Tanguy.
Merci à vous, c'est chouette. À bientôt.
Ça va, vous venez l'écouter aussi ? Madame, vous venez l'écouter ? Voilà, il s'approche, je pense pas de la scène, il va aller sur la scène circulaire. Alors, Tanguy Le Grain, le spectacle Crase. Il est en robe, il est seul. Seul avec son biniou contre son corps. Là, le public s'approche. Nous aussi, on va s'approcher. La caméra est là. Vous le connaissez ? Vous le connaissez ?
Non.
Vous allez voir, c'est très beau.
Sur Internet,
ça va être une belle découverte, je pense.
C'est ça. On a très envie de connaître un peu plus.
Bon concert, bon concert. Juste vos impressions, votre prénom et vos impressions.
Je m'appelle Véronique et je suis surprise.
Très surprise.
Très surprise. Étrange. Enfin, ça, y a des évocations. On a l'impression de voir un moine et en transe, en prière et en même temps le son très moderne. Donc c'est un étrange mélange, quoi.
La surprise, est-ce que ça vient du fait que vous veniez entendre un instrument qui était le biniou ? Ou c'est l'ensemble qui vous surprend ?
En fait, j'ai pas du tout l'impression d'avoir entendu du biniou, mais pas du tout. Donc c'est vrai que, voilà, partant de juste trois lignes sur un Internet disant que c'était à partir de biniou, bon, je voyais quelque chose d'un peu plus électrique, en effet, mais aussi décalé, non.
Et vous, donc, vous êtes le prénom, votre prénom ?
Stéphane.
Stéphane.
Enchanté.
Enchanté. Merci beaucoup.
Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà. Super Stéphane, bravo.
Étrange découverte de Crase, je crois. Vraiment une façon de revisiter le biniou moderne, complètement décalé, en même temps envoûtante. J'ai passé une bonne partie de sa prestation les yeux fermés. De façon à vraiment m'imprégner de la musique, et c'est vraiment là que j'ai le plus apprécié cet instrument et sa façon d'en jouer.
Pendant que mon ami fermait les yeux, moi je profitais du spectacle et j'ai pensé au derviche tourneur. Je pense que c'est pour ça qu'il a choisi la jupe, ça donne beaucoup de mouvement, d'amplitude, ça va avec le son, quoi.
Cette musique, elle est facile pour s'intérioriser et vraiment s'emmener dans des songes métaphysiques. Bravo en tout cas.
Merci. Vous étiez... est-ce que vous êtes bretons tous les deux ?
Absolument pas.
Non, non.
Tourangeau pour ma part et...
Mancel.
Voilà.
Et c'est... Vous êtes venu déjà au festival Vieille Charrue ? Vous venez déjà ?
Vieille Charrue, j'ai regardé le pichet que j'ai encore à la maison. Qui est un peu délavé, il date de 2002. Donc voilà, ça fait 25, ça fait 13 ans. Ouais. Non, qu'est-ce que je raconte ? 23 ans que je n'étais pas venu au Vieille Charrue.
Moi, ça fait une dizaine d'années que je n'étais pas venu.
C'est vraiment, enfin, pour un jeudi soir, il y a déjà vraiment beaucoup de monde. Et bon, leur gars, elle a l'air bien au top. Voilà, espérons que le temps soit avec le festival et que... Longue vie aux Vieilles Charrues.
Voilà. Vous avez pris juste pour. Vous avez pris un pass juste pour ce soir.
Oui, pour ce soir. D'accord. On est venu voir Alanis Morissette en particulier. Et j'espère que ça va bien se passer.
Et vous restez dans la région pour dormir, peut-être que vous n'êtes pas rentré.
Alors on va faire un petit mariage à Lorient. Des amis bretonnes, deux bretonnes qui se marient. Coucou à
Marie et Jack. Tout nouveau.
Tout nouveau de bonheur pour Marie et Jack, qu'on va célébrer demain en grande forme à Hennebon. Yeah.
Merci, merci beaucoup. Vraiment, c'est sympa d'être prêté à cet entretien. Tous mes voeux, Marie. Merci beaucoup.
Merci. Hein. Merci, bonne soirée.
Un petit mot sur Crase, ben moi j'ai trouvé que ben forcément, allez, on va dire le mot, c'est la transe, quoi. Ambiance un peu soufie aussi avec sa robe, et puis le fait qu'il tourne un petit peu moins vite que moins vite que des soufis, mais quand même. Et puis, aussi, c'est rigolo de voir les gens aussi, de les observer. Je trouvais que les gens étaient parfois un peu perplexes, mais ils suivaient quand même assez attentifs, en fait, à ce qu'ils entendaient et à ce qu'ils faisaient. Et puis, c'est une grosse performance, quoi. Je trouve vraiment capable de ça, avec tout ce... Je sais pas comment c'est fait techniquement, mais je pense qu'il y a plein de boucles, sous les boucles et tout, et voilà.
Et vous avez remarqué, il y a deux micros. Ouais. Tout est joué.
Ouais. Ouais.
Au corps. C'est la première fois que vous le voyez.
Non,
vous
déjà... j'en avais pas mal entendu parler. Ouais. Et là, c'est la première fois que je le voyais. Et franchement, je trouve que c'est très audacieux et ça fonctionne. Enfin, en tout cas pour moi.
Vous avez entendu aussi.
Alors que rajouter, c'était complètement planant. Moi, j'ai plané pendant tout ce concert, hypnotisant. Et je voyais bien que tout le monde était hypnotisé. En effet, ouais. Je trouvais que les gens ne bougeaient pas beaucoup. Moi, j'avais envie d'accompagner le mouvement. Je le ressentais dans mon corps tout entier. J'avais aussi parfois les larmes qui venaient. Ouais, j'ai vécu ça comme une expérience de biniou hypnotique incroyable.
J'allais venir sur l'instrument biniou pour vous. Vous l'avez déjà entendu, Tanguy?
Est-ce que je l'ai déjà entendu? Ouais.
Biniou, oui.
Oui, bien sûr.
Et vous attendiez à ça ou pas du tout?
J'avais écouté un petit peu. Ça m'avait intriguée, mais je pense qu'il faut le vivre en live, quoi. Et avec d'autres, je trouve qu'il se passe quelque chose de magique. Quoi. Avec lui, sa performance sur cette scène circulaire, ouais, elle est impressionnante. Ouais. En fait, c'est tout, c'est visuel, c'est sonore, c'est. Mais ça, ouais, je trouve que ça pénètre vraiment, quoi. C'est voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Je suis super contente d'avoir vécu ça, quoi. On a entendu tellement de choses musicalement, on se dit tiens, je découvre vraiment quelque chose. Ouais.
Une question, vous êtes bretonne ou pas?
Il y a.
Monsieur, bonjour.
Mais qu'est-ce que je peux rajouter? J'ai ressenti une grande générosité de sa part et une énergie communicative qui effectivement moi, m'a pénétré complètement, c'est vrai. Hein, et cette émotion dont parlait Léna, je l'ai vraiment ressenti comme une boule ici qui était là, qui était puissante et qui l'a tenue parce qu'il faut tenir, c'est une vraie performance là qu'il a livrée, une grande générosité.
Cette interview est à retrouver sur le site de la radio c-lab.fr. Mais ne nous quittez pas parce que demain vous allez retrouver l'interview de Quinquis. Et on remercie Maud de nous avoir enregistré.
Merci Maud, merci à tous, à demain.